Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute ce soir dans le grand débat du Club des Idées. On s'intéresse donc à l'encyclopédie en ligne Wikipédia qui fête ses 20 ans. C'était le 15 janvier 2001. On vous raconte la folle histoire de cette aventure qui est aujourd'hui, c'est vrai, l'un des sites les plus consultés en France, au même titre que Facebook, au même titre que YouTube, au même titre que d'autres. Hein. Dans le top 5, je crois, c'est ça, Rémi Mathis, vous êtes historien, ancien président de Wikimedia France. Dans le top 5 des sites les plus consultés de France, Wikipédia
c'est ça, c'est
aujourd'hui
à peu près le 4 ou le 5e site le plus consulté, mais aussi le premier non commercial et le premier culturel.
Alors, j'évoquais tout à l'heure la fiabilité de Wikipédia. Comment être sûr de ce qu'on y lit ? J'ai lu que les fondateurs et le contrôle de ce conseil du savoir, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut les appeler ainsi, ces médiateurs qui suivent tout ce qui est mis en ligne sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia ?
On les appelle souvent des patrouilleurs,
des
personnes qui vont regarder systématiquement tout ce qui se passe, cibler un petit peu les contributions qui sont un petit peu bizarres, celles qui retirent du texte, celles qui retirent des sources, celles qui sont faites par des personnes qui n'ont pas de compte.
Mais combien ils sont ces patrouilleurs ? Parce que pour lire et suivre toutes les informations qui sont modifiées à un instant T, il faut être des milliers, j'imagine.
Alors, quelques centaines à quelques milliers. Des personnes qui font plus de 100 contributions par mois, il y en a environ 1000 sur la Wikipédia
francophone. Ce sont des bénévoles.
Ce sont des bénévoles qui font ça pour leur plaisir.
Ce sont des contributeurs qui deviennent des patrouilleurs.
Tout à fait.
Et comment on est sûr que ces patrouilleurs, à un moment, ils jouent le jeu de la réalité et qu'ils soient totalement objectifs par rapport aux infos qui sont déposées sur la plateforme ?
On n'en est jamais sûr, mais le principe, c'est qu'ils sont plusieurs centaines et que donc chacun va regarder ce que fait les autres et finalement, chacun se tient un petit peu par la barbichette à s'assurer que chacun travaille bien.
Marie-Noëlle Doutrex, vous avez publié cet ouvrage « Wikipédia et l'actualité ». On peut être sûr de ce qu'on lit sur Wikipédia aujourd'hui ?
Alors, la qualité des articles est assez inégale en fonction des sujets. Mais ce que mes recherches ont montré, c'est
que
finalement...
Parce que c'est devenu la référence quand même. Hein.
Oui. Mais en fait, plus les articles vont être consultés, ou va y avoir de contributions sur ces articles, et plus il y a de chances que finalement ils correspondent aux standards de Wikipédia. Et qu'ils aient, par exemple, le label « Bon article » ou « Article de qualité », qui est une reconnaissance donnée par la communauté envers certains articles particulièrement travaillés. Donc, il y a des signes quand même dans Wikipédia qui permettent de voir si un article est plus ou moins travaillé, si on peut s'y fier ou non.
Alors, il y a un événement important qui a été un coup d'accélérateur aussi pour le développement de Wikipédia. C'est pour ça qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure. C'est cet événement, le 11 septembre 2001.
On l'apprend à l'instant, un avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York, l'une des plus hautes tours de Manhattan.
Voilà, le choc, la sidération mondiale, le 11 septembre 2001, les avions s'écrasent dans les tours du World Trade Center. Pourquoi, Marie-Noëlle Doutrex, ça a été un élément accélérateur du développement de Wikipédia ?
Alors, ça a été un événement d'actualité extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est que Wikipédia s'est démarquée des encyclopédies traditionnelles, particulièrement à ce moment-là, puisqu'elle a réussi à prendre en compte l'actualité qui était en train de se faire et d'écrire par rapport à cet événement en cours.
C'est la première fois, j'ai lu ça en préparant cette émission, c'est la première fois qu'on peut suivre, comme vous le disiez, l'actualité sur tout un tas de sujets que les contributeurs alimentent au fur et à mesure de l'événement. C'est-à-dire qu'on commence par écrire des pages et des pages sur les architectes des tours du World Trade Center, sur les compagnies aériennes, sur le terrorisme, sur les mouvements terroristes, et ensuite, évidemment, sur tous les conflits qui s'en sont suivis. Ça, c'est inédit. Et c'est un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs, si j'en crois ce que j'ai lu, un peu plus tard avec les printemps arabes, par exemple.
Alors oui, il y a un attrait de la communauté wikipédienne envers l'actualité qui est assez fort. Néanmoins, cet attrait pour l'actualité, il pose question aussi avec quelles sources on construit ces articles. Et parce qu'il n'y a pas de source universitaire sur des événements qui sont en cours.
Oui.
Alors, on va devoir s'appuyer sur les médias, mais les médias, ils n'ont pas non plus toujours les bonnes informations au moment où l'événement se passe. Donc, il y a tout un circuit comme ça de l'information qui pose question pour finalement aboutir à un article fiable, de qualité, sur un événement sur lequel on n'a pas un recul encyclopédique.
Vous connaissiez cette histoire, Rémi Mathis, le premier événement documenté en direct sur Wikipédia, c'est le 11 septembre 2001.
Alors, j'avais pas suivi celui-ci en particulier, mais ça m'étonne pas et ça fait vraiment partie des débats au sein de la communauté de quelle manière traiter ces questions d'actualité. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir du recul ou pas ? C'est vraiment les grands enjeux.
Alors, il y a un invité mystère qui est avec nous par téléphone, qui est philosophe. Bonsoir, Milad Wahi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on avait aussi envie de vous entendre, ou vous, homme de lettres, homme de culture, sur votre rapport à Wikipédia. Est-ce que Wikipédia permet, selon vous, un accès, par exemple, plus facile au savoir et à la culture ?
Ah, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, c'est évident que Wikipédia est la plateforme culturelle la plus importante presque dans toutes les langues. Il est vrai que, malgré ce point de vue, je suis un grand supporteur. On peut avoir quelques, comment dire, points pas nécessairement très critiques, mais quand même d'interrogations vis-à-vis de la structuration de la manière dont les articles sont mis en place dans Wikipédia. Et du coup, effectivement, au-delà des sujets de l'actualité qui ont évolué, quand vous venez de l'évoquer depuis 2001, oui. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est à la fois... Rémi vient de le dire, que Wikipédia présente toujours une synthèse du savoir et que les contributeurs anonymes donnent pas nécessairement du nouveau. Et là, je conteste un petit peu, mais on avait discuté dans le passé avec Rémi, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans la manière de présenter, dans la structuration de la plateforme et sa présence globale, quand même, cette présentation a des effets prescriptifs extrêmement puissants, que ce soit dans les domaines techniques ou scientifiques, et puis après, le domaine qui m'intéresse davantage.
Mais vous, vous faites confiance en tant que philosophe, écrivain, penseur, à Wikipédia, c'est une source d'information fiable selon vous ?
Pour les domaines scientifiques et techniques, absolument. Oui. Pour les domaines qui sont en sciences humaines, j'ai beaucoup plus de difficultés et de réticences. Parce qu'il me semble que le modèle qui a été adopté par Wikipédia pour valider et qualifier un article ne correspond pas à la nature de l'interprétation qui est particulière ou spécifique à certains domaines en sciences humaines et parfois en sciences sociales. Oui. C'est-à-dire à la fois, il y a un certain effet de consensus qui devient absolutiste et qui suscite des problèmes. Et pour le dire très très vite, si vous voulez, quant à moi, le consensus n'est pas désirable dans le domaine des sciences humaines.
Oui.
Alors que dans le domaine scientifique ou technique, en tout cas, pour un premier accès à certaines formes de savoir, c'est essentiel. Je crois qu'il y a un clivage, un écart entre les domaines qui peut se voir. Il suffit de comparer des articles sur Diderot, sur Pascal, en français, en anglais, en allemand, et on voit tout de suite que la qualité et le modèle a du mal, quant à moi.
Alors, très intéressant ce que vous dites. On va continuer d'en parler. Vous restez avec nous, parce qu'il y a aussi des polémiques derrière ce succès incroyable et ce phénomène Wikipédia. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on continue donc ce soir dans le grand débat du Club des Idées de vous raconter la folle aventure de Wikipédia, l'encyclopédie qui fête ses 20 ans. Encyclopédie évidemment en ligne, devenue un incroyable succès partout dans le monde. Alors on est toujours avec Rémi Mathis qui est historien et ancien président de Wikimedia France. Alors j'avais promis qu'on expliquerait qu'est-ce que c'est Wikimedia France.
Alors c'est une des structures qui existe autour de Wikipédia, puisque sur Wikipédia n'importe qui peut participer, c'est juste un lieu où on va écrire une encyclopédie. Et en revanche, deux grands types de structures, la Wikimedia Foundation internationale qui est l'hébergeur, donc qui gère ce qui est technique et juridique, et d'autre part il y a ce qu'on appelle des chapitres, dont Wikimedia France qui fonctionne par pays, qui en gros font l'interface avec la société, qui vont signer des partenariats, expliquer ce qui se passe, répondre aux médias, etc.
Et chercher de l'argent, ça gagne de l'argent Wikipédia ou pas ?
Alors ça ne gagne pas d'argent, c'est bien ça le problème, mais ça a besoin d'argent, c'est-à-dire que Wikipédia est entièrement...
C'est pour ça que quand on va régulièrement sur la page, on est appelé à une petite contribution pour participer au financement.
Son modèle économique repose sur une levée de fonds, de même que c'est écrit par une infinité d'internautes, c'est financé par une infinité d'internautes.
Donc vous êtes en train de me dire que son fondateur, Jimmy Walls, dont on parlait tout à l'heure, est un type absolument incroyable qui a créé un succès mondial avec cette encyclopédie, et il n'est pas millionnaire, il n'a pas gagné plein d'argent cet homme-là ?
Il doit faire quelques conférences ici et là, mais ce n'est pas par Wikipédia.
C'est
pas Zuckerberg,
c'est pas Zuckerberg, oui, bien sûr. Alors, on parlait tout à l'heure du profil type des Wikipédiens. Vous en parliez notamment, Marie-Noël Doutrex. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et vous avez publié un ouvrage sur Wikipédia et l'actualité. C'est vrai que les recherches montrent que ces contributeurs, ce sont plutôt des profils blancs, intellectuels de centre-gauche, et qu'en France, la majorité de ses contributeurs a au moins Bac plus 7 et sont à 87% des hommes. Et ça, vous l'évoquiez en début de débat, ça pose question car ça nous oriente vers une construction et un savoir un peu biaisé, avec un prisme défini. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, qu'ils ont majoritairement Bac plus 7, je ne suis pas sûre, mais
que
ce sont des hommes tout à fait des hommes blancs à presque à 90%, c'est le cas. Ça pose particulièrement problème dans la mesure où Wikipédia fonctionne par communauté de langue. C'est-à-dire que la Wikipédia en français, c'est la Wikipédia aussi pour les internautes des pays francophones, oui, en Europe et ailleurs. Et donc, il faut qu'ils puissent eux aussi être représentés dans l'encyclopédie. Or, c'est très majoritairement des Français en plus qui écrivent les articles.
On va peut-être citer des exemples pour que chacun comprenne. Hein. Ça veut dire qu'il y a des angles morts en fait dans l'encyclopédie Wikipédia. Par exemple, on parle assez peu des pays en développement. On parle assez peu des femmes célèbres. J'ai vu qu'il y avait un déficit énorme sur les portraits, les histoires des femmes célèbres. Comment on l'explique ça? C'est dû au profil des contributeurs?
Oui, tout à fait. C'est lié en partie au fait qu'il y a beaucoup moins de contributrices que de contributeurs sur Wikipédia, ce qui est un problème. Mais c'est lié aussi au
Donc
fait
les hommes
que...
parlent des hommes, quoi, grosso modo. C'est ce que vous nous dites.
Oui, en partie. Mais c'est aussi lié au fait que, de manière générale, les femmes scientifiques ou artistes sont beaucoup moins reconnues. Et donc, il y a moins de publications sur elles. Et comme Wikipédia s'appuie sur des publications, des sources extérieures pour justifier l'intérêt d'un article...
des travaux de recherche
de notre société.
Et puis de la culture de notre société.
Tout à fait.
Rémi Mathy, sur cette histoire de profil, c'est vrai que on n'y pense pas forcément quand on va sur Wikipédia très spontanément, mais il y a un prisme.
Alors, il y a forcément un prisme. Après, il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup plus d'articles sur les femmes ou sur les pays en voie de développement sur Wikipédia que dans n'importe quelle encyclopédie. Et il y en a moins que sur des sujets européens.
Non, mais proportionnellement à l'ensemble des articles qui sont publiés, c'est ça le sujet.
Voilà. C'est ça. Après, il y a forcément un prisme, mais l'idée même d'encyclopédie est une idée, en fait, européenne. C'est une idée des Lumières. Et ça pose quand même un certain nombre de problèmes vis-à-vis de ce qui est acceptable comme source. En effet, on aimerait bien écrire notamment sur des traditions africaines, mais est-ce qu'il y a des sources écrites? Si oui, ça passe souvent par des publications européennes et il y a un côté colonialiste problématique. Sinon, de quelle manière intégrer ça alors qu'il n'y a pas de source, alors qu'on est sur un modèle européen qui demande de l'écrit? C'est un problème en fait social et de notre société, bien avant d'être celui de Wikipédia
alors,
en particulier.
Oui, c'est le reflet de la société finalement, c'est ce que vous dites. Alors il y a un autre sujet qui est régulièrement avancé, c'est le bouleversement du savoir et du milieu éducatif dû à Wikipédia, et on en vient à notre deuxième extrait qu'on a passé tout à l'heure et qu'on a courté parce qu'il n'arrivait pas au bon moment. Dans un lycée de Paris, un professeur a tendu un piège à ses élèves, constatant qu'ils utilisaient très souvent les mêmes formules et commentaires dans leurs devoirs. Alors il a posté des analyses sur des forums et a proposé un corrigé complet de dissertation sur Internet. Les trois quarts de ses élèves se sont fait prendre. Écoutez leur réaction.
Il a vraiment voulu nous montrer que tout le monde pouvait mettre ce qu'il voulait sur Wikipédia et que c'était pas un site sûr. Pareil, les corrigés sur Internet, c'était des corrigés vite fait, juste pour gagner de l'argent.
J'avais repris en fait quasiment telle quelle la phrase de Wikipédia. Mais maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis, est-ce que c'est vrai?
Ça vous fait réagir, ça, Milad Ouaoui? Vous êtes toujours avec nous, philosophe?
Oui, je suis toujours avec vous. C'est devenu un lieu commun, mais en même temps, moi, je trouve que ça pose aucun problème parce qu'en fait, les étudiants apprennent avec Wikipédia. Moi, quand j'avais enseigné même à Paris 4, à la Sorbonne, j'avais encouragé mes élèves à utiliser, même à copier pour essayer d'approfondir. Après, reproduire
mais
tel quel...
C'est quand même c'est quand même l'écueil de la génération copier-coller. Ça pose question quand même, plutôt que d'aller chercher une information dans une encyclopédie, dans une œuvre, dans une revue.
Ah, je ne suis pas sûr, parce que je crois qu'on essaie d'appliquer des critères à la pratique des jeunes, de soi-disant de la culture coller-copier, pour essayer de la mettre comme si elle ne fait que reproduire. Et moi, dans mon expérience, ce n'est pas le cas. Évidemment, il va toujours avoir un pourcentage qui va en faire du simple coller-copier, mais dans la majorité des cas, en tout cas dans mon expérience personnelle, en enseignant à la fois en France et aux États-Unis, c'est tout à fait l'inverse. Ça ouvre la voie vers des formes de recherche, vers une mise en question de la validité, de la fiabilité de certains renvois et références. Et là, on trouve les bénéfices de cette remarquable plateforme.
Rémi Mathis, est-ce que Wikipédia va finir d'achever nos bons vieux dictionnaires, nos bonnes vieilles encyclopédies?
Je dirais que les encyclopédies papier ont déjà un petit peu du plomb dans l'aile, d'abord à cause d'elles-mêmes sous forme numérique. Plus personne ne veut des livres papier parce que ce n'est pas pratique d'avoir 20 volumes dans sa salle
à manger. Moi, je trouve qu'il y a toujours une noblesse à feuilleter les pages.
C'est très joli. Pour faire un décor, c'est parfait, mais c'est quand même beaucoup moins pratique que de chercher en plein texte. Et après, en effet, les encyclopédies traditionnelles ont cherché des nouveaux modèles économiques, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises.
Oui.
Et du coup, elles se sont généralement tournées vers le monde de l'éducation avec d'autres problèmes, en particulier de financement, qui sont des vrais problèmes.
Faut un pas dernier mot sur ce même thème, Marie-Noëlle Doutrex.
Oui, l'encyclopédie universalisme, je recommande à mes étudiants d'y aller, mais en fait, elle coûte très très cher aux universités. Or, le budget des universités ne cesse de baisser.
Wikipédia, forcément, ça coûte moins cher.
Et voilà. Et du coup, certaines universités ont arrêté leur abonnement à universalisme parce que c'était trop cher. Et c'est vrai que c'est pas normal que les universités aient à payer très très cher pour avoir accès aux connaissances que leurs propres chercheurs produisent, financés par le public. Donc tout ça, c'est un problème dans l'édition scientifique et qui aussi favorise l'utilisation de Wikipédia parce que la gratuité, c'est quand même un point important de son modèle.
Bien, merci pour ces explications, merci pour ces précisions, merci de nous avoir aussi éclairé sur ce que raconte cette épopée Wikipédia. Et vive le savoir.
Merci.
19h48, dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. On vous parlera des tontons flingueurs du foot français. Claude Besse, Bernard Tapie, à tout de suite.